France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est de la nature des choses de Lucrèce que nous lisons avec philosophie. Long poème composé de 6 chants et de quelques 7400 vers, écrit au 1er siècle avant notre ère par un épicurien convaincu mais angoissé. Et aujourd'hui, place à la physique fondamentale de Lucrèce, faite d'atomes et de vide, de petits corps invisibles et d'espaces vacants, avec cette question: si tout s'explique ainsi, que reste-t-il de nous, du mouvement, du hasard et de nos initiatives, parfois, souvent, impromptues?
L'homme que j'ai en face de moi est un personnage dont la présence est évidemment insolite dans un studio. Il est vêtu d'une robe blanche qui forme un large pli sur sa poitrine, et dont le pan est rejeté majestueusement sur l'épaule gauche.
Pourquoi ne pas dire carrément qu'il s'agit de Lucrèce, Titus Lucretius Carus, comme on prononçait de mon temps? Demandons à Lucrèce ce qu'il pense de votre curiosité.
Pourquoi troublerais-je les amis lointains que vous êtes du récit des misères de mon être mortel qui s'est dissipé dans le flux et le reflux de la substance immortelle de l'univers?
Pourriez-vous nous répéter vous-même ce que vous avez dit de la nature des choses?
J'ai dit, c'est au moyen de petits corps invisibles que la nature accomplit sa besogne. Et il n'y a rien au monde que ces corpuscules et le vide dans lequel ils se meuvent. Les éléments tombant verticalement à travers le vide inerte doivent se mouvoir avec une vitesse égale. Comment expliquer leur rencontre? Il n'y a qu'une réponse. C'est que ces éléments prennent l'initiative d'un mouvement qui rompt les lois du destin pour empêcher la succession indéfinie des causes. C'est qu'il existe une certaine déclinaison des corps premiers, s'écartant capricieusement de leur chute verticale, comme l'enseignait mon maître Épicure, qui, louange à Vénus, volupté des hommes et des dieux, a dissipé tous les mystères de la nature.
Bonjour Alain Gigandet.
Bonjour Géraldine.
Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette archive de 1951 qui nous présente ce personnage de Lucrèce et qui en fait, bah, je dois le dire quand même, en 1 minute 30, parvient parfaitement à nous restituer sa théorie physique avec les atomes, le vide, le clinamen, c'est-à-dire cette déviation des atomes, et nous parle même de Vénus volupté. Qu'avez-vous ajouté à ça?
C'est vrai que c'est un bon résumé. Si la vertu d'un exposé philosophique, c'est de faire court...
de courte durée, hein.
Oui, je suis pas sûr que c'était ce qui présidait à l'écriture de Lucrèce prioritairement, mais en effet, l'essentiel est dit. Je crois que si l'on veut traiter Lucrèce avec philosophie, ce qui est intéressant, c'est le processus mental, imaginaire et conceptuel à la fois, qui mène à cette théorie étonnante qu'est l'atomisme de Lucrèce. Alors, peut-être que... il faudrait faire une petite précision au départ. Je voudrais faire une précision sur le rapport entre matérialisme et atomisme, puisque tel était le titre que vous m'aviez proposé au départ. Bon, je voudrais dire simplement que les épicuriens, et donc Lucrèce, dans le panel des écoles de l'Antiquité, qui sont fondatrices de ce que nous, dans notre tradition occidentale, nous appelons philosophie, eh bien, les épicuriens sont, au fond, les représentants éminents, quasi hégémoniques, du matérialisme. Ce sont les premiers matérialistes et matérialistes fondateurs. Mmh. Et j'en veux pour preuve que tous, à peu près sans exception, tous les philosophes de la modernité et de la contemporanéité, qui se réclameront du matérialisme, se référeront sans coup férir au message des atomistes.
Donc on pourrait penser à Diderot, on pourrait penser à Marx.
On peut penser à Diderot, on peut penser à Marx, peut-être un peu avant, je pense à Machiavel, dans un autre registre, mais Montaigne, par certains côtés, je ne dis pas que Montaigne est un matérialiste, mais il y a des choses intéressantes dans son scepticisme.
C'est en tout cas un grand lecteur de Lucrèce.
Et comment? Et voilà, donc on peut filer les choses jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà. Et ce qui est intéressant, évidemment, pour nous, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est... Pourquoi, comment et pourquoi dans l'épicurisme, l'atomisme est la guise du matérialisme, si vous voulez. L'atomisme est la façon dont ils remplissent ce principe matérialiste. Voilà.
Alain Gigandet, vous avez été enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil en histoire de la philosophie ancienne, spécialiste, on l'entend, de l'épicurisme et plus précisément de Lucrèce. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à ce sujet. J'en cite deux. Lucrèce, Atome, Mouvement, paru aux éditions PUF, et aussi Épicure, les plaisirs de la sagesse, disponible aux éditions Ellipse. Pourquoi c'est important de faire cette précision, comme vous venez de le faire, que pour présenter la pensée physique de Lucrèce, il faut préciser que c'est un matérialisme et que ce matérialisme ne passe que par la compréhension des atomes. C'est quoi un atome ? On a une idée aujourd'hui peut-être un peu vague de l'atome, mais qu'est-ce que c'est, je dirais, aujourd'hui, et surtout qu'est-ce que c'était à l'époque de Lucrèce ? Est-ce qu'il y a un écart ?
Effectivement, c'est important au moins à deux égards, si vous voulez, d'un point de vue historique, et on vient de l'évoquer, pour l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée, peut-être même aussi l'histoire des pratiques, hein, et en particulier des pratiques politiques, hein, c'est énorme en fait. C'est énorme et c'est troublant parce que c'est une tradition qui en même temps a été minorisée.
Hein. Le matérialisme ?
Et en tout cas, le matérialisme épicurien. J'en veux pour preuve juste un exemple, qui est bien connu des historiens de la philosophie. Il y a une lettre de Spinoza à Hugo Boxell, dans un débat qui tourne autour de l'existence des fantômes, et où Spinoza défend justement une vision, une ligne tout à fait, je dirais, rigoureuse et je dis matérialiste en ce sens-là, c'est-à-dire il n'y a pas de tels êtres, si vous voulez, et à la fin, Spinoza en a assez parce que la discussion tourne en rond, et donc sa troisième lettre, je crois, dit « Écoutez, on a dit tout ce qu'on avait à dire, je sais que je vous convaincrai pas. Vous citez l'autorité de Platon et d'Aristote, il m'aurait beaucoup étonné que dans cette affaire, vous citiez celle de Démocrite, d'Épicure et de Lucrèce, car justement, eux, ils disaient le vrai, et ils le disaient tellement bien que on a censuré leurs œuvres. » Et on a détruit les œuvres du grand Démocrite. Je cite de mémoire, hein, c'est pas littéral, mais enfin, telle idée. Donc vous voyez qu'il y a un débat, il y a même peut-être un combat dans la tradition où les épicuriens sont quand même victimes, si vous voulez, d'opérations répétées d'occultation. Bon, voilà.
Mais
donc c'est important d'un point de vue historique.
Mais c'est vraiment intéressant parce que pourquoi le matérialisme aurait été marginalisé ? Qu'est-ce qui posait problème ? Pourquoi on avait besoin de le marginaliser ? Parce que faut quand même préciser que Lucrèce, quand il écrit de la nature des choses, il écrit 200 ans après Épicure. L'idée, c'est quand même de diffuser sa parole. C'est une œuvre qui est polémique. On pourra y revenir demain dans notre dernière émission avec Pierre Vesperini. Mais il y a quand même cette idée de marginalisation, de polémique. Et pourquoi, du coup, c'est important de réhabiliter le matérialisme, même aujourd'hui ?
Alors, bon, il y a beaucoup de questions hein, dans votre question.
Il y en a deux grandes.
Oui. Je pense qu'on peut montrer l'importance. Je vais prendre les choses de loin, et puis après on va revenir progressivement, si vous voulez, à notre sujet plus précis, parce que il faut procéder, à la fois analytiquement et synthétiquement.
Allons-y.
Alors, je dirais, en tout cas de mon point de vue, c'est très important pour la façon dont nous considérons ce qu'est la philosophie. Je pense déjà. Et là, je vais aller vite. Pour moi, il ne fait aucun doute que les épicuriens, et Lucrèce au premier plan, là, parce que c'est un militant, ils combattent pour une idée de la philosophie qui, si vous voulez, essaye d'occuper une place dans toute notre tradition, mais une place qui est difficile à tenir. Et je vais la résumer très simplement par une définition que nous avait donnée, c'est pas une définition, mais enfin par une détermination que nous avait donnée mon maître Althusser, qui était un de mes professeurs à l'École normale supérieure. Et un jour, il nous avait dit, vous savez, la philosophie, et en particulier dans la tradition matérialiste, elle peut se définir par un objectif, et un seul, ne pas se raconter d'histoire.
L'importance du matérialisme.
Voilà. Alors, peut-être que cette définition ou cet objectif ne conviendrait pas justement à toutes les traditions, mais en tout cas, les matérialistes ont essayé de la faire valoir dans l'histoire. Et là, ils peuvent se référer à cette pensée fondatrice qu'est l'épicurisme. Alors, On va expliquer pourquoi, progressivement, mais il faut peut-être revenir au principe. Bon. Donc, j'ai dit que c'était important de se référer... Enfin, il était important de comprendre ce que c'est que l'atomisme pour des raisons historiques. On vient de filer dans cette direction. Je crois que c'est aussi très important conceptuellement. Voilà. Et là, il faut comprendre comment on arrive, dans l'épicurisme, à cet objet qu'est l'atome.
Alors, allez-y. Voilà. Dites-le nous, là.
Alors, je crois que, en fait, pour comprendre la démarche, et là, il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup éclairé là-dessus, dans les cours qu'il nous avait fait, dans un ouvrage qu'il a écrit, c'est Michel Serres. Michel Serres avait vraiment mis en relief quelque chose, à partir de Démocrite, puis d'Épicure. C'est que, au fond, l'atomisme, ça procède de deux expériences imaginaires. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, vous voyez, des expériences...
pensée.
De pensée. Mmh. Voilà, exactement. Exactement. Deux expériences de pensée. La première, elle relève de la dissection. Et la deuxième, elle relève de la combinaison. Mmh. Et ce qu'il y a de merveilleux dans Lucrèce, c'est que, contrairement à ce qui se passe dans les textes d'Épicure qui nous restent, mais ce sont des textes fragmentaires, Lucrèce illustre parfaitement les deux. Voilà. Donc, ce qui veut dire, pourquoi je fais cette précision, parce que ça veut dire qu'il est très conscient des ressorts profonds, philosophiques, principiel de la doctrine à laquelle il adhère et dont il fait la promotion.
Si j'applique ce que vous dites, Alain Gigandet, à la question de l'atome, c'est que pour comprendre l'atome, pour parvenir au matérialisme et donc au principe fondateur du matérialisme, à savoir l'atome, il faut à la fois faire une expérience de pensée de dissection, c'est-à-dire... Bon, pardon, je vous regarde, Alain Gigandet, donc je vous prends comme objet de pensée, je vous découpe en petits morceaux jusqu'à parvenir à vos atomes.
N'exagérez pas, quand même.
Voilà. Puis d'y mettre de combinaisons, puisqu'après, je vais vous reconstituer en...
Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, en effet, donc ça veut dire, mais vous, je prends la balle au bon, ça veut dire que l'atome n'est pas une pétition de principe. Mm-hmm. Hein, l'atome n'est pas quelque chose qui est posé comme axiomatiquement, et puis après, on va... Non, pas du tout. Il résulte d'une analyse très précise que Lucrèce développe de façon très, très détaillée, avec luxe d'exemples et de démonstration, si vous voulez, dans le champ 1, en tout cas dans la première moitié du champ 1, du De Rerum Natura. Donc on est si vous voulez, on est dans le dur. Là. Bon. Voilà, et c'est le cas de le dire pour l'atome. Alors, la dissection, qu'est-ce que c'est ? Ben, prenez un corps, n'importe lequel, vivant, pas vivant, vous voulez savoir de quoi c'est fait. Ça, c'est ça aussi donc l'idée de la matière. De quoi c'est fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire ce qu'ont fait par exemple les anatomistes, hein, les gens qui s'occupaient d'anatomie depuis l'Antiquité au Moyen Âge. Vous allez commencer à le découper en morceaux, comme ils découpaient les cadavres. Hein, vous allez voir. Puis vous allez trouver dans la boîte, vous allez trouver des petites boîtes, des organes, et puis vous allez continuer à découper, etc. Bon. Et puis le postulat ou l'idée, si vous voulez, de l'épicurien, c'est que à un moment, la dissection va s'arrêter. C'est-à-dire que vous allez tomber sur un élément, une parcelle, qui est insécable. Et atomos, en grec, ça veut dire ça, insécable. Voilà. Donc une portion, si vous voulez, de matière, de la matière, si je mets à l'état le plus concentré qu'on puisse imaginer, puisque là, c'est quelque chose, puis si on peut pas le disséquer, c'est que c'est, au fond, absolument solide, impérissable, éternel, absolument dur, si vous voulez, indestructible. Voilà. Donc ça, c'est
la première expérience de pensée.
C'est la première expérience de pensée qui va mener à ça. Et ça, je pense que les épicuriens le doivent à Démocrite, à Leucippe, et à cette école dont nous savons malheureusement insuffisamment de choses. Alors peut-être que Spinoza avait raison, peut-être que les œuvres du grand Démocrite, nous ne les connaissons par fragments que parce qu'elles ont été l'objet d'une certaine censure, c'est possible. Voilà. Et puis, il y a une deuxième expérience de pensée qui procède de la façon suivante. Une fois que vous avez isolé l'élément, une fois que vous avez dit, bon ben voilà, tout ce qui apparaît dans notre monde empirique, et dont nous sommes nous-mêmes un morceau, à la base, c'est fait de ça, de cette petite brique, voilà, c'est quand même bon. Une fois que vous avez posé ça, il reste à comprendre comment à partir de là, on arrive, vous voyez, il faut refaire le chemin en sens inverse, c'est-à-dire il faut faire la synthèse. Vous avez fait l'analyse, il faut faire la synthèse. Voilà. Et là, Il y a une autre expérience de pensée qui va servir à l'épicurisme et qui est, à mon avis, proprement géniale. C'est l'expérience de la combinaison. L'expérience de la combinaison, où est-ce que vous la trouvez? Eh bien, en observant un phénomène qui est celui que nous sommes en train de pratiquer sans modération tous les deux, c'est-à-dire le langage. Et je dirais plutôt le langage écrit. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous demandez comment ça fonctionne, le langage, eh bien, vous êtes renvoyé à des éléments, en effet, mais pas beaucoup. 25, 26, 27 éléments. Des lettres. Hein, et vous vous rendez compte qu'en combinaisant de façon variée ces quelques éléments, eh bien, vous pouvez produire une quantité quasi illimitée de segments significatifs, dotés de signification, que nous appelons les mots.
Alors, je lis d'ailleurs ces vers de Lucrèce. « Même dans mes vers, tu vois disséminer de nombreuses lettres communes à bien des mots. Pourtant, les mots, il te faut l'admettre, diffèrent par leur sens et leur sonorité. Tel est le pouvoir des lettres par simple transposition, mais les atomes disposent de pouvoirs plus nombreux pour créer toutes les choses dans leur diversité. » Effectivement, avec les mots, on comprend à la fois la dissection, c'est-à-dire les lettres, l'atome, mais aussi le pouvoir de combinaison et de formation de corps infini. Avant qu'on écoute tout de suite un premier texte extrait du premier chant, Alain Gigandet, on a parlé du matérialisme, de ce matérialisme fondé sur les atomes, de l'atomisme. En quoi le fait que ce soit de revenir à l'atome permet d'accomplir la visée éthique de Lucrèce et Épicure, à savoir d'empêcher la superstition, d'empêcher de craindre la mort?
Alors là, vous me faites faire un grand écart, hein, parce qu'il y a beaucoup de médiation. Hein, évidemment. Mais l'ensemble de ces médiations s'appelle le système épicurien, tout simplement.
D'où cette semaine, d'ailleurs.
Oui, voilà.
Mais pourquoi la physique? Pourquoi a-t-il besoin d'abord de la physique atomiste pour précisément remplir cette vision?
Donc c'est très important ce que vous dites, parce que là, c'est en termes, si vous voulez, de ce qu'on appelle de façon prétentieuse en philosophie l'architectonique. Hein, c'est-à-dire la théorie des systèmes. Eh bien, si on veut comprendre le système épicurien, il faut bien comprendre ceci, c'est que il y a quelque chose qui est premier dans le système, c'est la physique. Hein. Et la physique, assistée par la deuxième discipline que les épicuriens lui accolent, c'est-à-dire la canonique, c'est-à-dire la théorie de la méthode, dont je viens d'évoquer quelques aspects, qui permet de parvenir au résultat de la physique. Bon, très bien. Mais il y a une troisième partie qui, elle, n'est pas première, mais qui a la primauté en termes axiologiques, en termes de valeur, et c'est l'éthique. Et en effet, Épicure, là aussi, c'est un penseur radical qui a scandalisé ses contemporains, et pour longtemps, c'est qu'Épicure dit, si nous vivions comme il faut, si nous étions heureux spontanément dans nos vies, si nous n'avions pas peur de la mort, si nous étions en paix avec nos semblables, et surtout en paix avec nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de faire de la physique, on n'aurait pas besoin de comprendre la réalité, on n'aurait pas besoin d'être atomique, etc. Mais voilà, le fait est que nous vivons mal. Et pour l'épicuriste, précisément, les vérités de la physique doivent nourrir un certain nombre de principes, doivent justifier, fonder un certain nombre de principes qui sont ceux d'une vie heureuse, c'est-à-dire d'une vie conforme à ce que les épicuriens appellent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble.
Donc ça veut dire que sans atomes, pas de bonheur.
Sans atomes, pas de bonheur, exactement. Pourquoi? Parce que les atomes nous permettent de comprendre un certain nombre de choses sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le monde dans lequel nous baignons, hein, et dont nous sommes simplement une partie, et de tirer des conséquences, je dirais logiques, d'un point de vue épicurien, concernant la manière de vivre la plus conforme à ce qu'est notre nature.
D'ailleurs, quand les êtres cèdent à la vieillesse, si le temps consume et anéantit toute leur matière, d'où Vénus ramène-t-elle au jour les espèces vivantes? Quand elle retourne, où puise la terre ingénieuse pour leur offrir d'âge en âge nourriture et vigueur? Les sources internes, les fleuves lointains, d'où viennent-ils renouveler la mer? Et l'éther pètre les étoiles? Car le temps infini, le passé et les jours auraient dû consumer toute substance mortelle. Mais si, durant ce temps, existèrent des corps par lesquels notre monde s'est constamment refait, ils sont assurément doués d'immortalité. Rien donc ne peut jamais retourner au néant. La même cause, enfin, la même force toujours détruirait toutes les choses si la matière éternelle ne les tenait dans l'entrave plus ou moins stricte de ses nœuds. En effet, un contact suffirait à causer la mort, car il n'y aurait point d'élément immortel dont seule une certaine force peut défaire la trame. Mais en réalité, les nœuds des éléments premiers diffèrent les uns des autres et leur matière est éternelle. Les choses restent donc intactes, le temps qu'advienne une force capable de corrompre leur tissu propre. Rien donc ne retourne au néant, mais toute chose se désagrège et rejoint les éléments de la matière.
Nous sommes dans le premier chant de La nature des choses de Lucrèce, lu par Anaïs Sisbert. Nous sommes au vers précisément 225-249 avec cette thèse énoncée à la fin, Alain Gigandet. Rien ne retourne au néant, mais toute chose se désagrège et rejoint les éléments de la matière. Alors a priori, cette phrase, quand on la lit, on la comprend parfaitement. Néanmoins, en tout cas moi, à la lecture de Lucrèce et notamment de ces passages-là, quelque chose me retient, une idée. Je ne comprends pas comment la matière peut à la fois être éternelle et en même temps les êtres mortels, les êtres étant composés de matière eux-mêmes.
Oui, évidemment, on touche là à la composition des principes. Je parle des principes philosophiques, théoriques, qui est fondatrice dans la physique épicurienne, bien sûr. C'est que on a parlé de l'atome, mais on n'a pas parlé de quelque chose qui, pour les épicuriens, est corrélatif, absolument corrélatif de l'atome, et qui apparaît en filigrane dans le texte, qui va être précisé un peu plus loin par Lucrèce, c'est le vide. Mmh. Voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'étrange, au fond, qui est, c'est quelque chose, en tout cas, qui interroge le lecteur de Lucrèce. C'est que ce matérialisme, qui fonde donc la réalité, qui dit, au fond, il n'y aurait pas de réalité, c'est un des points de la démonstration de Lucrèce. Il n'y aurait pas cette réalité précaire, changeante, etc., dont nous sommes partis et que nous sommes, nous-mêmes, s'il n'y avait pas en dessous, entre guillemets en dessous, ou, un substrat.
Ou autour.
Oui, un substrat, lui, indestructible. Mmh. Voilà. Et on se dit, mais alors, comment le destructible peut-il procéder de l'indestructible? Enfin bon, il y a quelque chose. C'est que, voilà. L'atome n'est pas le seul principe à partir duquel la réalité empirique se compose. L'atome, il ne peut se composer, et là je vais reprendre le paradigme des lettres. Mmh. L'atome ne peut se composer, donc selon un paradigme combinatoire, qu'à une condition. C'est que il soit animé de mouvement, d'un mouvement même qui est perpétuel, et qu'il le fasse par un système, par un jeu de choc, entrer en relation et se, dans certains cas favorables, entre guillemets, se tisser avec d'autres atomes. Voilà. Et pour cela, pour qu'il y ait mouvement de l'atome, il faut que les atomes soient dispersés dans ce que Lucrèce appelle le vide. Mmh. Bon. Alors, le vide, c'est un concept très très complexe.
Mais en fait, c'est tout le problème du vide.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très simple. Le vide, il n'y a rien. Alors pourquoi c'est complexe?
Le solide implique le vide. Voilà. Alors le vide, il n'y a rien. Et en effet, vous mettez là, le doigt sur les difficultés que pose le concept de vide. En réalité, je pense qu'il y a deux concepts de vide. Tels qu'ils apparaissent dans Lucrèce. Au moins deux concepts du vide. Il y a un concept qu'on pourrait dire globalement spatial. Qu'est-ce que c'est que le vide?
Ben, le vide, c'est ce qui nous sépare,
c'est l'espace
là.
Infini.
Voilà, c'est ce qui nous sépare,
alors,
nous.
Oui, mais d'abord, c'est l'espace infini dans lequel est dispersé une infinité, un nombre infini d'atomes. Mmh. Voilà, c'est d'abord ça. Et du fait de cette dispersion, et du fait que c'est dans le vide, les atomes tombent. Ça, c'est là, parce que, au fond, la définition fondamentale du vide pour les épicuriens, c'est ce qui cède. C-E, accent grave, D-E. C'est-à-dire ce qui n'offre aucune résistance. C'est ça, le vide. Hein? Donc, d'abord, substantiellement, si je puis dire. Bon. Et donc, les atomes tombent. Et c'est ce qui explique, après, on précisera, mais qu'ils soient dans un mouvement perpétuel. Ils ne cessent jamais de tomber. La réalité, c'est quelque chose qui est en mouvement et d'un mouvement de chute. C'est-à-dire que nous, qui sommes en ce moment en train de nous parler, dans ce studio, dans cet ensemble stable, si vous voulez, eh bien, on tombe. Ça cède sous nous. Mmh. Ça ne cesse pas de céder. En tout cas,
c'est presque angoissant ce que vous dites
en
là.
En tout cas, ce qui nous compose, ouais, ce qui nous constitue, fondamentalement, c'est en train de tomber. Et nous avec. Voilà. Donc ça, c'est, oui, c'est une pensée assez...
vertigineuse.
Qui a un côté vertigineux.
Alors, quel est le deuxième sens du vide ?
Voilà. Alors, justement, c'est ce mouvement perpétuel qui fait que nous sommes là pour en parler, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons. Et je voulais rendre un hommage particulier à ce paradigme de des lettres, parce que, pas assez souvent, on ne remarque que pour qu'il y ait combinaison, il faut qu'il y ait des éléments et il faut qu'il y ait des intervalles. C'est ça le principe de la combinaison, de la phrase. Mais il faut aussi qu'il y ait un mouvement qui permette de permuter. L'effet pour changer les combinaisons. Et donc le mouvement est inscrit implicitement dans le paradigme de la lettre.
Mais ça, c'est pas ce qu'on entend dans ce texte-là, Alain Gigandet. Vous allez un peu vite en besogne, alors, parce qu'on va entendre un autre texte qui est vraiment sur les corps premiers et le vide. Mais là, avant tout, Lucrèce nous montre qu'il y a de la matière. Et quelques temps après, il va introduire les atomes, les corps premiers et le vide. Vous anticipez, mais vous avez raison, parce que le temps passe très vite. Mais là, cette matière, pour l'instant, on a l'impression qu'on ne la comprend pas très bien. C'est-à-dire, à la fois, il y a quelque chose de très intuitif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit une plante en train de faner, on voit bien que quand elle tombe dans la terre, elle va nourrir la terre qui elle-même va produire une autre plante. Donc la plante se désagrège, mais la terre, matière de la terre, elle va être éternelle. Est-ce que c'est ainsi qu'on doit, par exemple, comprendre nos propres corps, Alain Gigandet ?
Alors, c'est que vous ne m'avez pas laissé passer à la deuxième définition du vide.
Pardon.
Ou à la deuxième guise du vide. Mm-hmm. C'est bien naturel, on progresse en échangeant. Il y a une deuxième aspect du vide. Et là, c'est l'aspect intervallaire. C'est-à-dire que le vide, ça n'est pas simplement un espace infini de dispersion. Mm-hmm. Le vide, c'est aussi... interstitiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des combinaisons, eh bien, vous avez du vide entre les éléments qui combinent, nécessairement. Voilà. Et c'est ce qui permet leur permutation, etc. En sorte que tout ce qui est composé et qui est la réalité empirique, tout simplement, hein, tout cela, c'est du tissu. Je crois que quelqu'un qui l'a très très bien décrit comme ça et imagé, c'est Michel Serres, dans son livre donc sur Lucrèce. Hein. Je partage pas toutes ces interprétations de Toussaint, mais là il est très bon. Voilà, c'est du tissu. Okay. Nous sommes tissus. Et nous sommes tissus de quoi ? Nous sommes tissus de vide. Il y a en nous autant de vide qu'il y a de matière. Et c'est là l'explication que vous me demandez. C'est que alors que nous sommes faits de corps absolument solides, la présence du vide, qui est le deuxième principe de la combinaison que nous sommes, si vous voulez, fait que nous sommes absolument précaires, absolument destructibles.
Donc c'est le vide qui nous menace.
Le vide en nous. Et d'une certaine façon, on va y revenir tout à l'heure, le vide nous menace sous ces deux guises, hein, sous ces deux déclinaisons, si vous voulez, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois le vide dans lequel nous sommes plongés, on va voir qu'il nous menace aussi, mais le vide qui est constitutif de notre être matériel est aussi ce par quoi nous vivons et ce par quoi nous périssons.
Alors, on va écouter le deuxième texte, notamment où Lucrèce expose ses corps premiers et ce vide. On va aller plus loin dans votre explication, Alain Gigandet. Mais juste une chose, il y a quelque chose qui interpelle dans la méthode même de Lucrèce, c'est qu'il semble nous appeler à faire de l'observation, à regarder ce qui se passe sous nos yeux. Or, quand même, l'atome est un corps invisible, c'est le plus petit possible. Sur quoi repose sa méthode ? Parce que même le vide interstitiel dont vous parlez, autant l'espace infini, je vois bien, autant l'espace interstitiel qui constitue mes propres tissus, ça c'est imperceptible.
C'est vraiment une question fondamentale que vous posez, et elle nous amène tout droit, je dirais, à l'épistémologie épicurienne, c'est-à-dire à leur théorie de la connaissance. Et en effet, cette théorie de la connaissance, elle est remarquable, c'est peut-être pas assez souvent souligné, parce que elle part d'un paradoxe. Pour le dire autrement, Épicure ne se facilite pas la tâche.
Ah oui, il nous dit tout par des sens.
Absolument. Bon, et y a des la seule, qu'on sent pas. Voilà, le seul témoignage que nous ayons, qui nous permet que la réalité nous donne, si vous voulez, donne à l'esprit pour construire une représentation rigoureuse du monde, c'est celui de nos sens. Or, précisément, les réalités qui sont l'objet de cette science, l'atome, mais aussi le vide, sont absolument hors de la portée de nos sens. L'atome, pour des raisons diverses, une raison évidente, c'est ça, qu'il est tout petit. Donc, il est, on ne peut ni le voir, ni le toucher. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi que, ça nous amènerait trop loin, mais il y a aussi que l'atome, par sa nature même, ne peut pas nous envoyer ce que nous envoient les corps sensibles, c'est-à-dire une enveloppe d'eux-mêmes qui nous permet de le percevoir.
L'image.
Voilà, l'atome n'émet pas ce que Lucrèce appelle des simulacres ou des images qui nous permettent de voir. Donc il est rigoureusement invisible au centre. Alors Lucrèce dit dans un jeu de mots passionnant, il dit que l'atome est aveugle. Alors l'atome est aveugle dans plein de sens, en fait, il est aveugle. Dans un sens, vous voyez, réciproque, c'est-à-dire nous sommes aveugles à lui, mais il est aveugle aussi parce que, par exemple, il ne se dirige pas.
Il fait n'importe quoi.
Il est à peu près strictement déterminé, à une petite exception près. Voilà. Bon, alors il y a ça. Et puis le vide. Ben, pour percevoir quelque chose, il faut en être affecté. Mmh. Or, le vide, par définition, c'est ce qui n'affecte pas. C'est ce qui n'est pas affecté et c'est ce qui n'affecte pas. Donc le vide... Pareil, il est hors de la portée de nos sens. Donc, il va falloir construire un protocole de connaissance qui, partant des représentations sensibles, nous mène vers les objets insensibles qui sont la trame du réel. Et là, les épicuriens construisent un système complexe de formation des concepts à partir des représentations. Ça serait trop long de rentrer dans le détail, mais je prends une des opérations parce que les plus remarquables, les plus saillantes de cette méthodologie, de ce système, parce qu'elle est constamment présente dans Lucrèce et qu'elle nous introduit à autre chose, c'est-à-dire au génie poétique de Lucrèce. Alors cette opération, c'est ce qu'ils appellent en grec, c'est ce que Épicure appelle la séméiosis, c'est-à-dire la théorie des signes, si vous voulez, la pratique des signes. Qui est développé très très brièvement au début de la lettre à Hérodote d'Épicure, qui sera développé dans un traité épicurien plus tardif de Philodème, un contemporain de Lucrèce, Périséméion, donc le traité des signes. Voilà. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire que si on observe bien un segment de réalité, si on le dissèque bien, à la fois par l'observation et par l'imagination, si vous voulez, alors on va mettre en évidence des processus qui sont analogiques à ce qu'on peut donc déduire de ce qui se passe au niveau des mouvements élémentaires dans le vide et des combinaisons. Oui. Donc, il va y avoir un phénomène de transposition qui est fondamental et qui est en effet fondé sur l'analogie, une opération d'analogie. Alors, je disais que c'est fondamental pour lire Lucrèce, d'avoir ça en mémoire. Alors, y a Lucrèce fait allusion à cette opération. Bon, il faut bien capturer les termes dont il sert dans le texte, il faut le lire en latin, parce que c'est pas... il développe pas, si vous voulez, de façon réflexive cette méthodologie, mais il le signale quand même. Alors, il est évident que ça, c'est pain béni pour Lucrèce. Parce que Lucrèce, c'est un poète. C'est quelqu'un, à la fois, qui transperce la réalité, si vous voulez, qui s'en imprègne et qui la pénètre. Bon. Et puis, qui va à partir de là imaginer. Voilà. Et ce don poétique d'observation et d'imagination, il va le mettre au service de l'opération. Alors là, proprement épistémologique, si vous voulez, et heuristique, qui, à partir d'éléments du réel, de scènes, de processus observables, va permettre de déduire ce qui se passe dans l'invisible.
On va écouter tout de suite un extrait encore du premier chant de La nature des choses de Lucrèce.
Mais il faut maintenant reprendre la trame des mots. La nature entière, donc, tel qu'en soi-même, est formé de ces deux choses, les corps et le vide où ils sont placés et se meuvent diversement. La sensation commune montre que le corps existe en soi. Si la foi en celle-ci n'est pas première, inébranlable, traitant des invisibles, nous n'aurons rien à quoi nous rapporter pour assurer quoi que ce soit par le raisonnement de l'esprit. Et sans l'espace ou lieu, que nous appelons vide, les corps ne pourraient se situer nulle part, ni se mouvoir en aucun sens absolument, comme nous l'avons démontré un peu plus haut. Autrement, il n'est rien, rien que l'on puisse dire différent de tout corps, et sans rapport avec le vide, rien qui semble révéler une troisième nature. En effet, tout être devra posséder sa grandeur, vaste ou petite, qu'importe, pourvu qu'elle existe. S'il est sensible au toucher, même léger, infime, il viendra grandir le nombre des corps, accroître leur somme. S'il est intangible et se laisse partout traverser, voilà évidemment l'espace que nous appelons vide. En outre, tout ce qui existera par soi-même agira et devra subir l'action d'autres agents ou laissera en soi les choses exister et se faire. Mais rien ne peut être actif ou passif sans corps, ni fournir un lieu à moins d'être vacant et vide. Donc, en plus du vide et des corps, il ne demeure au nombre des choses aucune autre nature qui tombe jamais sous nos sens ou qu'un esprit parvienne à découvrir par le raisonnement.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Lucrèce, des rerum natura, de la nature des choses. Nous sommes toujours dans le premier chant au vers 418-448 lu par Anaïs Isbert. Nous avons entendu dans ce texte, Alain Gigandet, ce que vous avez expliqué, à savoir les corps premiers et le vide. Il y a deux choses, les corps premiers et le vide. Il faut entendre par corps premier atome, mais ça n'est pas encore dit, ça apparaîtra quelques vers plus tard. Pourquoi Lucrèce, dans ce texte, Alain Gigandet, insiste sur l'absence de troisième nature? Là, ça revient quand même à plusieurs reprises et on a l'impression qu'il veut écarter l'idée qu'une force surplombante, transcendante, peut-être même divine, intervienne sur la formation des corps.
Oui, alors moi j'appelle ce texte, je dis que c'est un principe de saturation. Qui est énoncé ici. En effet, on a montré que le réel empirique s'explique par la combinaison au fond de ces deux éléments, le mouvement donc des atomes dans le vide qui produit des effets de combinaison. Et maintenant, il est important de dire que on n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça, là, c'est, on a saturé l'explication, on n'a pas besoin d'autre chose pour expliquer ce qui est. Alors de quoi est-ce qu'on n'a pas besoin? Ben oui, évidemment, vous avez, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Voilà. Ben, en particulier, je dirais, on n'a pas besoin d'un principe spirituel. Et nous revoilà dans le matérialisme. Là, vous avez un axiome matérialiste. Mm-hmm. Là, on le capture d'une façon spectaculaire, si vous voulez. Là, vous avez purement une démarche purement matérialiste. C'est-à-dire qu'il s'agit d'affirmer que les principes que l'on a énoncés et explorés suffisent absolument. Aucun besoin d'introduire un principe spirituel, une démarche de pensée qui échapperait à l'emprise des atomes et du vide. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas d'âme, par exemple, au sens où l'entend Platon. Qui est justement l'âme qui est, entre autres choses, le principe moteur du corps et qui, précisément, peut mouvoir le corps parce qu'il n'est pas du corps.
Mais alors, où se situe la puissance des atomes de se mouvoir et de former d'autres, en se rassemblant, de constituer des corps? Parce que ça, c'est une des difficultés aussi, c'est qu'il y a le mouvement, et vous avez beaucoup travaillé dessus, Alain Gigandet, le mouvement des atomes qui permet de constituer des corps. C'est ce qui s'appelle aussi le clinamen. Qu'est-ce qui fait que des atomes qui sont censés tomber, d'aller de haut en bas, bah, quand même dévient leur trajectoire pour se renformer, se rencontrer et former des corps, si ce n'est quand même une puissance. Alors certes, cette puissance n'est pas extérieure, n'est pas divine, n'est pas transcendante, mais alors elle est quoi? Elle est intérieure? Ce serait une forme de moteur? Comment s'active-t-il? Est-ce une forme de volonté? Ou est-ce que c'est des éléments extérieurs, comme du vent, par exemple, qui pousserait les atomes par des formes d'accident?
Oui, on arrive dans une difficulté là, un point, c'est... si, pour parler vulgairement, c'est un sac de nœuds.
Ça va, c'est pas trop vulgaire.
De l'épicurisme, hein, où on pourrait parler latin, on dirait que c'est un locus vexatus. Bon, mais oui, ça c'est très difficile. Alors, quelques précisions pour reprendre le scénario et en arriver à ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire la fameuse théorie de la déviation, hein, que Lucrèce appelle clinamen. Alors, d'abord, vous avez dit que les atomes, oui, tombaient. Alors, quelle est cette puissance de l'atome? Cette puissance de l'atome, on dit, c'est sa capacité de mouvement. Hein, puisque tout ce qui est fécond dans tout ce qui est fécond dans le déplacement de l'atome est relatif, enfin, vient de sa capacité à s'entrechoquer avec d'autres atomes, et à former, de façon aléatoire, hein, des combinaisons qui vont être stables, ou relativement stables. On reviendra sur le relativement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si on détaille les principes qui nous conduisent à ça, c'est-à-dire au choc, il y a le poids de l'atome. C'est le poids qui le fait tomber dans le vide, comme je l'expliquais tout à l'heure. Seulement là, en effet, on débouche sur une difficulté, que nous connaissons d'ailleurs, qui est explicité par Lucrèce, là aussi on n'a pas d'équivalent dans Épicure, c'est cette intuition formidable chez les épicuriens que des corps qui tombent dans le vide tombent à une vitesse qui n'est pas déterminée par leur poids. C'est-à-dire qu'ils tombent à une vitesse uniforme. Et c'est une intuition que va retrouver Galilée.
On en reste bouche bée.
Ben oui, c'est troublant. Et oui, cette idée qu'un atome peut être plus lourd qu'un autre, il tombera strictement à la même vitesse dans le vide. Pourquoi? Parce que le vide, c'est ce qui cède. Absolument, si vous voulez. D'où une difficulté, du coup. Hein, cette intuition géniale mène à une difficulté. Mais comment, du coup, comment est-ce qu'ils font pour se rencontrer?
Bah oui.
S'ils tombent parallèlement comme une pluie verticale, les uns au-dessus des autres, mais sans jamais que l'un puisse tomber sur celui qui le précède, comment? Et c'est là que Lucrèce dit, ah ben, pour comprendre ça, il faut introduire un principe. Donc, il y a, jusqu'ici, j'ai énoncé, dit-il, deux principes du mouvement, deux principes de constitution de la réalité à partir du mouvement des atomes, donc le poids, qui est quelque chose qui est interne, propre à l'atome, et le choc, qui lui est externe. C'est un principe qui est également interne et peut-être plus profondément interne. C'est ce qu'il faut appeler une déclinatio ou une inclinatio ou un clinamen. C'est-à-dire que, dit-il, dans le cours de cette chute verticale, en un lieu et en un temps que rien ne détermine, incertus, en latin, que rien ne détermine, c'est-à-dire aucune règle, aucune loi, etc., eh bien, un atome produit une certaine déviation qui va, évidemment, troubler toute cette pluie et entraîner, c'est du billard, hein, tout un ensemble de choses.
Mais pourquoi ?
Parce que c'est nécessaire à l'explication.
Ah voilà, c'est nécessaire à l'explication, mais pas à philosophiquement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on dirait que bon, bah à défaut d'avoir troisième nature, quand même, il y a un petit Deus ex machina qui serait, mais sauf qu'il serait in machina, qui est le principe du clinamen. Est-ce que ce serait une forme de volonté? Est-ce que comme par exemple entre deux amoureux, est-ce que ce serait
un charme, vous voulez dire?
Oui, une forme de charme, exactement. Hein, du magnétisme, ou même de la volonté, par exemple, quand on décide d'agir.
Non, cette idée est totalement exclue, parce qu'il ne peut y avoir de volonté, de décision, de projet, que chez un être composé, qui est doté en plus d'un organe très particulier qu'on appelle l'âme, et qui est un tissu, donc sa capacité de percevoir, d'imaginer, de sentir et de penser. Bon, donc ça, l'atome, il en est, comme il est incomposé, mais au principe des compositions, c'est tout à fait exclu. Donc il faut présupposer en lui ce pouvoir, comme il a un pouvoir qui lui vient de son poids, de dévier à un certain moment. Mais c'est très obscur.
Mais ça n'est pas un pouvoir qui est dû à une sorte de libre arbitre ou donc de volonté, vous l'avez dit, c'est exclu. C'est plutôt nécessaire. Ça voudrait dire que presque, bon, je vais faire que des anachronismes, mais presque inconsciemment, les atomes agissent de manière à former des corps déterminés par les lois de la nature.
Oui, ça c'est sûr. Donc, le clinamen, en aucun cas, n'est ni quelque chose d'extérieur qui serait introduit dans le système atome vide, ni une impulsion propre à l'atome qui... à quoi présiderait un quelconque projet. Et cependant, il faut bien admettre que c'est une sorte d'impulsion, hein, s'il y a une déviation. Tout ça est très mystérieux, et le mystère s'épaissit encore lorsqu'on constate que, outre la fonction de mettre en rapport un atome avec un autre atome dévolu par Lucrèce au clinamen, il le met en charge, si je puis dire, d'une autre réalité, si vous voulez, ou de ce que les épicuriens considèrent comme une donnée de l'existence des êtres vivants, c'est-à-dire la liberté, au sens d'une sorte de libre arbitre, hein, c'est difficile là parce qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, mais au moins au sens auquel les vivants, tous les animaux aussi bien que les hommes, auraient ce pouvoir, dans certains registres, de diriger eux-mêmes leur action. C'est-à-dire de prendre des décisions suivies des faits pratiques qui ne sont pas déterminées par autre chose que leur propre esprit, leur propre imagination, leur propre pensée.
Sauf que la différence, c'est que les atomes, c'est inconscient, alors que les hommes auraient une puissance de réflexivité et de conscience.
Eh oui. Donc Lucrèce ne peut établir qu'une sorte de parallèle analogique qui n'est pas claire. Comment on peut passer de cette impulsion interne à une réalité absolument non pensante, non vivante, etc.
Aveugle et nécessaire.
Aveugle et nécessaire. À ce qui crée dans les comportements des humains, enfin ce qui est conditionné dans les apports des humains par une certaine liberté ou par un certain intervalle, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui un libre arbitre ou un choix, ou Épicure dit par émas, c'est-à-dire quelque chose qui dépend de moi et qui est essentiel, puisque sinon, comment ferions-nous les choix philosophiques qui président, si vous voulez, à la pensée. Donc, c'est très difficile d'imaginer une médiation, une causalité. Donc, les interprètes de Lucrèce et d'Épicure s'y essayent, évidemment, avec des succès divers. Mais je dois dire que, en ce qui me concerne, je ne peux que reconstruire laborieusement les données du problème sans dire, voilà, telle est la solution.
On va écouter un dernier texte, il nous restera peu de temps, Alain Gigandet. Peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu plus quel est votre sentiment sur cette question du clinamen.
Les êtres que tu vois grandir en progression joyeuse et gravir peu à peu les degrés de l'âge adulte assimilent en effet plus d'atomes qu'ils n'en rejettent, tant que la nourriture afflue sans peine dans leurs veines, tant qu'ils ne sont assez distendus pour perdre beaucoup et dépenser plus que leur âge ne peut absorber. Car les atomes sont nombreux à s'écouler des corps, il faut le concéder, mais plus nombreux à les rejoindre, jusqu'au jour où le fait de la croissance est atteint. Lors, insensiblement, force et vigueur adulte se brisent et la vie s'écoule vers le pire. Car au terme du progrès, plus un corps est vaste, plus il s'est amplifié, plus nombreux sont les atomes qu'il rejette et répand en tous sens alentour. La nourriture à grand-peine se diffuse dans les veines. Elle ne suffit plus à compenser les pertes, renouveler ces larges flots qui déferlent le décor. Il est donc juste qu'ils périssent, par ce flux raréfié, tous enfin succombant sous les chocs extérieurs, puisqu'au grand âge, la nourriture vient à manquer et que les atomes s'abattant du dehors ne cessent d'accabler et de vaincre toute chose par leur choc. Ainsi donc, les remparts autour du vaste monde, vaincus à leur tour, ruines et poussières donneront. Les aliments devraient tout refaire et renouveler. C'est à eux d'étayer le monde et de tout soutenir. Illusion, puisque ni les veines ne supportent, ni la nature ne fournit la quantité nécessaire. Le voici déjà brisé par l'âge, et la terre épuisée enfante à grand-peine de petites créatures, elle qui engendra toute espèce et donna les corps gigantesques des fauves en ses gésines.
Nous sommes au deuxième chant de La nature des choses de Lucrèce vers 1122-1154, lu par Anaïs Isbert. Vous nous avez indiqué ce texte, Alain Gigandet, pourquoi ?
C'est un texte, à mes yeux, essentiel, et d'autant plus que on trouve là quelque chose qui est propre, enfin, qui est spécifique à Lucrèce, et dans lequel on n'a pas d'équivalent dans les textes d'Épicure. Voilà. Au fond, ce que nous dit Lucrèce ici, c'est que tout être composé, donc tout être empirique, et ce qui contient les êtres empiriques d'une certaine façon, c'est-à-dire le monde, tout monde, il y en a une pluralité, hein, indéterminée, eh bien, c'est comme ce que nous appelons aujourd'hui un système ouvert. C'est-à-dire, il ne vient à l'être et il ne se maintient dans l'existence que parce qu'il est ouvert sur un espace d'où lui vient ce qui lui est nécessaire constamment, les flux d'éléments qui lui sont nécessaires à se refaire, car il perd constamment des éléments, et il faut qu'il se reconstitue constamment. Voilà. Et, si vous voulez, les corps ont une certaine stabilité, voilà, grâce à ce flux. Ce qui veut dire que pour nourrir et maintenir dans l'être un être fini, il ne faut pas moins que l'infinité de l'espace ouvert et de la somme, summa summarum, des atomes. Voilà. Mais en même temps, et ce que nous explique ce texte, c'est que ce même flux ouvert, joint à un certain nombre de processus internes liés au mouvement, condamne tout être, tout composé, à la destruction et à la mort.
Donc ça n'est pas une pensée de la liberté, mais une pensée, on va dire, bon, du progrès de la déchéance, mais pas si implacable que ça. Il y a une idée de la rencontre quand même.
Je crois que la sagesse épicurienne consiste à tenir les deux à la fois. C'est-à-dire que la nature, elle nous fait être, elle constitue notre être, elle le maintient dans l'être, et en même temps, elle le condamne à la précarité et à la destruction. C'est-à-dire, nous sommes finis et nous devons le savoir. Ce principe est essentiel pour, évidemment, vous l'avez compris, pour l'éthique, pour construire une sagesse, puisque sans la conscience de cette finitude, nous connaissons par exemple le fait que la somme des plaisirs qui nous est accessible n'est pas infinie, la somme des souffrances non plus, que la mort, au fond, n'est pas une expérience que nous pouvons vivre en première personne, etc. Tout ça va être fondamental pour étayer l'éthique sur la physique.
Dans un atome d'oxygène, perdu dans une goutte d'eau, il y a des électrons sans gêne qui tournent autour d'un noyau. Moi, il me semble que tout cela ressemble, comme son petit frère, au système solaire. Il y a des planètes, des soleils, des comètes, d'immenses galaxies tout au fond d'une simple goutte d'eau. Et sur l'une de ces planètes, des êtres doués de raison se sont lancés dans des conquêtes bien au-delà de l'horizon. Avec audace, leurs vaisseaux de l'espace vont déchirer le voile qui cache les étoiles. Sur la planète, c'est la joie et la fête, mais ça ne fait ni froid ni chaud à la petite goutte d'eau.
Merci beaucoup à vous, Alain Gigandet. De vous, on peut lire Lucrèce, Atome, Mouvement, paru aux éditions PUF, Épicure, Les plaisirs de la sagesse, et aux éditions Ellipse. Et pour lire de la nature de Lucrèce, nous nous sommes servis des éditions GF et de la traduction de José Cani Turpin. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi faut-il refonder les républiques ? Les idées de fondation et de fondement sont si fortes chez les êtres humains, notamment dans les domaines politiques et historiques, dans la fondation d'une cité ou le fondement de la justice, que lorsqu'elles sont ébranlées, par exemple lorsqu'une cité qui nous semblait fondée pour l'éternité des temps s'effondre, et aujourd'hui on parle beaucoup d'effondrement, de l'effondrement des empires, comme on parle de l'effondrement climatique, lorsqu'une cité s'effondre donc, ou lorsqu'un fondement politique vacille, lorsqu'il est menacé, comme la démocratie, aujourd'hui, dans des pays qui semblaient l'avoir établi pour toujours, comme aux États-Unis depuis 1776, ou en Europe, où la paix semble menacée aussi dans ses fondations ou dans ses fondements, alors qu'elle était établie depuis la Seconde Guerre mondiale, on est pris d'un tremblement. Ce que l'on pensait éternel, en quelque sorte, et que véhiculent les images de fondation et de fondement, voici que cela paraît d'une fragilité inouïe. Et nous passons, en quelque sorte, sans y penser, du fondement à l'effondrement. Et nous passons dans une sorte de cyclothymie absurde, excessive, à l'idée d'un fondement éternel garanti une fois pour toutes, vers une autre idée, celle de la destruction définitive contre laquelle il n'y aurait aucun recours. Mais il y a une autre voie, il y a une autre source, et c'est ce que savent tous les sages depuis l'Antiquité, c'est la voie de ce que l'on peut appeler la refondation. Car, d'une certaine façon, les fondations des vies humaines ne sont jamais garanties une fois pour toutes, mais elles ne sont pas précaires si elles s'appuient en effet sur de véritables fondements qui luttent précisément contre la précarité des vies, et notamment l'histoire avec ses violences. Ainsi, les notions de liberté et d'égalité ou de fraternité, la République française n'a pas cru les garantir une fois pour toutes en les inscrivant sur ses frontons. Au contraire, c'était pour lutter contre des menaces toujours possibles, y compris de l'intérieur, y compris par les abus de pouvoir venus de l'intérieur. Il ne faut donc pas les prendre comme des fondements qui, une fois gravés sur des fondations de marbre ou de pierre, seraient garantis une fois pour toutes, mais au contraire comme des recours auxquels il faut toujours revenir quand il y a des ébranlements possibles. Et la notion même de république dans la philosophie antique est quelque chose de toujours menacé. La république, c'est ce qui garantit l'égalité et la liberté entre les citoyens. D'ailleurs, dans la République antique, seulement une petite catégorie de citoyens, ce qui fait que République et démocratie ne sont pas toujours synonymes. Mais il y a toujours dans l'idée de République cette idée de la fragilité de cette égalité, du fait qu'un citoyen peut devenir tyrannique et chercher à dominer tous les autres. Ainsi, liberté, égalité, fraternité, ou l'idée républicaine, sont des fondements conscients de leur fragilité, des fondements conscients que ce qu'ils construisent, c'est en effet des fondations plutôt fragiles dans la glaise de la violence humaine et de la fragilité du monde. Ainsi, d'une certaine façon, l'idée la plus importante dans la politique, c'est bien celle de refondation, c'est celle de revenir aux principes, pas forcément pour changer de république, comme le disent certains en France, mais en tout cas pour refonder la république. Oui, d'une certaine façon, l'idée la plus importante du temps présent, c'est de résister à l'effondrement, non pas en désespérant du fondement, mais en s'orientant vers les refondations.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe Carla Michel, Anna Fulpin, Axel Dubois, Shaima Giboire, Armance Bourquin et Nassim El Kabli, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son François Saint-Jour. Pour retrouver les émissions Avec Philosophie et les Pourquoi du Comment, rendez-vous sur le site et l'application Radio France.